Depuis le début de la semaine, Radio Prague vous a proposé des extraits de l'entretien réalisé avec Norbert Auerbach. Aujourd'hui, cet homme à la carrière exceptionnelle vit dans la capitale tchèque, Prague, la ville de son enfance, qu'il avait quittée avec sa famille juste avant l'invasion nazie en 1939. Après la guerre, il a entamé une carrière longue de près d'un demi-siècle à Hollywood. Devenu entre autres président de United Artists, Norbert Auerbach a participé à la production de plusieurs des plus grands succès cinématographiques du XXe siècle. Il a aussi côtoyé les plus grandes vedettes, mais n'en garde pas un très bon souvenir, les relations entre producteurs et acteurs étant souvent compliquées.
C'est pas facile parce que ces gens-là, souvent, seraient très difficiles, je ne sais pas comment on dit, demanding, c'est-à-dire qu'ils très exigeants, surtout qu'en plus, ils sont très souvent entourés de gens qui sont plus exigeants que le star, lui ou elle-même, en demandant des choses possibles, impossibles, au nom de ce star. Et oui, dans mes positions quand j'étais président et même vice-président, un senior vice-président, je n'avais pas trop à faire avec ces arrangements. Par exemple, je ne sais pas, je me rappelle quand Woody Allen arrivait à Paris, il y a un de ses acolytes qui est venu. Et il n'est pas content qu'on envoie un Mercedes. Le chercher à l'aéroport, qu'il veut absolument une grande voiture Cadillac. J'ai dit, écoute, cette Mercedes-là, c'est une meilleure voiture, elle est plus chère qu'une Cadillac, et ne m'emmerde pas, tout simplement. À la fin, ce qu'on a fait, parce que c'était complètement bête, ce système d'aller à l'aéroport, dire bonjour à quelqu'un, puis tout le monde rentre dans ses voitures et retourne à Paris. J'ai loué un autobus et on est allé chercher Woody Allen en autobus. Et on était une vingtaine dans l'autobus où on servait à boire et à des petits sandwichs. On est arrivé à l'hôtel Plaza Athénée dans un de ces vieux autobus encore avec la plateforme derrière. Mais c'est pas seulement pour ça que les vedettes, enfin les grands stars sont ne sont pas très sympathiques. J'ai pris l'approche de mon père, qui, comme on était entouré de ce genre-là, tchèque, mais quand même à ce moment-là, des gens qui étaient des stars en Tchécoslovaquie.
On peut citer Adina Mandlova, Lida Barova,
Hugo Haas,
Vlasta
Burian, Verich, Voskovec, Verich. Nous, comme enfants, ça nous impressionnait pas. Et mon père disait toujours, que quand quelqu'un lui demandait, écoutez, ça c'est des gens que j'engage quand j'en ai besoin. En tout cas, il y a tellement de gens beaucoup plus importants que les stars qui ne sont, à mon avis, pas très bonne compagnie. Ils veulent toujours parler de moi, et ce que j'ai fait, ce que je vais faire. C'est très restreint. Ce n'est pas une conversation générale. Naturellement, il y a des exceptions. Mais comme j'étais dans le métier, comme j'étais dans cette société, la tendance avec ces gens-là était toujours de parler de leurs affaires et avec... Comme je dis, il y a des gens, à mon avis, beaucoup, beaucoup plus intéressants. Je dis toujours, j'aurais bien voulu rencontrer Einstein. Ça m'aurait fait beaucoup plus plaisir de rencontrer Marilyn Monroe.
Du coup, quand Robert De Niro vous appelle de Tokyo pour se plaindre que sa suite est plus petite que la suite du réalisateur, vous êtes ferme.
Je ne suis pas ferme, mais je lui dis gentiment que je ne suis pas le concierge. Même, je me rappelle, je lui ai demandé, est-ce qu'il a vraiment mesuré? Parce que je ne crois pas que la différence était tellement grande, mais je lui ai dit, fous-moi la paix, à cette heure-ci, je ne peux rien faire, il téléphone au concierge.
Vous avez eu aussi l'occasion de travailler avec des stars du rock and roll, des chanteurs, donc un autre domaine. Et on peut pas dire que vous gardiez déjà le meilleur souvenir de Yoko Ono, mais des Beatles en général, avec qui vous êtes parti en tournée pour A Hard Day's Night, le premier film.
Oui, enfin, j'étais à ce moment-là, j'étais directeur pour l'Europe, pour United Artists. J'avais entendu naturellement des Beatles qui à ce moment-là étaient déjà très populaires en Angleterre, mais je me rappelle pas pourquoi j'ai décidé de les accompagner, mais j'avais un peu peur que l'organisation dans les différents pays n'était pas capable de s'occuper de 4 garçons qui était très difficile à comprendre.
Puisqu'il parlait le dialecte de Liverpool.
Il parlait le lilliputien. Donc, pour cette raison-là, je les ai accompagnés. Et notre premier arrivé était en Allemagne, où on avait réservé un hôtel entier, un petit hôtel, dans un parc qui était entouré de police. Et il y avait personne. Et la même chose s'est passée en Italie et en Espagne.
Parce qu'ils n'étaient pas encore connus dans ces pays-là à l'époque.
Ils n'étaient pas connus du tout. Les films, après, quand les films étaient sortis, étaient déjà, même le premier, des succès. Et c'est pour ça qu'on avait, au fond, continué avec les Beatles, les films qui suivaient. C'était, comme je disais, c'était très difficile de communiquer avec eux parce qu'ils étaient habitués à l'Angleterre, ils n'avaient jamais visité des pays étrangers, ils ne parlaient aucune langue, même pas l'anglais, comme on le disait. Et il restait toujours collé l'un avec l'autre en principe. Ils avaient toute cette situation leur faisait un peu peur. Donc c'était comme si j'étais avec quatre enfants. Mais ils étaient pas. Je ne peux pas dire qu'ils étaient difficiles. Ils se laissaient guider. Ils étaient toujours à l'heure. Il est toujours bien proprement habillé, il se saoulait pas, il prenait pas des grogues. C'était des garçons à ce moment-là qui étaient très, très sains quand on considère d'autres gens dans ce métier.
Est-ce que vous avez vu Casino Royale? La version qui vient de sortir à Prague.
Oui, j'ai vu Casino Royale d'ailleurs. J'étais à Paris quand on tournait le premier Casino Royale avec David Niven et Peter Sellers.
C'est là que vous avez rencontré pour la première fois Peter Sellers d'ailleurs.
Là j'avais rencontré. C'était la première rencontre avec lui. Et là, je crois que ce bond-là est un bond moderne, c'est-à-dire ce n'est plus le bond tellement léger, il est plus sérieux, c'est vraiment un spy thriller comme on le dit, et adapté au temps où les terroristes sont quelque chose à quoi on pense tout le temps et on a même peur très souvent. Donc, je crois que ne pas voir Roger Moore qui se battait avec 10 gars et puis on sort avec tous les cheveux en place et la cravate en place, mais au contraire le voir, le Bond qui se bat et qui est mourant vraiment, s'adapte mieux au temps, temps moderne.
Alors vous savez de quoi vous parlez, puisque on dit, et vous le dites, que c'est votre idée d'adapter les romans de Ian Fleming, de ce fameux agent 007 au cinéma. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'où est venue cette idée ?
Ce qui est vraiment arrivé, c'est qu'il y avait une conférence à Londres où on parlait des futurs films, et une des questions était quel genre de film j'aimerais moi, que je crois qui aurait beaucoup de succès. Et à ce moment-là, je lisais Dr. No. Et j'ai dit, voilà, je vois un succès pour des films qui sont dans ce genre-là, donc des parodies de films d'action, ou si vous voulez, des films d'action avec humour. D'ici là, il y a un long chemin aux productions aux premiers films des bandes. Mais c'est vrai que c'était une idée qui était adoptée, et le United Artists, c'est-à-dire la société où j'avais une grande position, avait finalement acheté, ensemble avec les producteurs Salzman et Broccoli, les droits de tous les nouvelles de Fleming.
Et c'est la fin de cette émission. Merci à Norbert Auerbach d'avoir répondu à nos questions. Pour plus d'informations sur la carrière de Norbert Auerbach, c'est sur notre site internet au www.radio.cz. Excellente fin d'année à toutes et à tous.